Bonsoir et bienvenue sur Sin Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons ensemble en s'exploration. C'est une pratique peu conventionnelle que ce podcast va traiter. Enfin, je vous dis ça, mais c'est un peu comme tous les sujets déjà traités, c'est-à-dire hors normes, atypiques, différents, surprenants. Bref, appelez ces thèmes comme vous le souhaitez. Néanmoins, ici, je souhaite mettre une petite alerte sur le thème qui sera traité. Nous allons parler du knife play dans le cadre du jeu BDSM, c'est-à-dire le jeu des lames. C'est une forme de jeu consensuel associé au milieu BDSM, impliquant couteaux, dagues, lames, bref, tout ce qui peut être tranchant, en tant que source de stimulation physique et mentale. Les lames sont typiquement utilisées pour couper des vêtements, griffer la peau, ou retirer la cire après un jeu de cire par exemple, ou bien même tout simplement donner une stimulation sensuelle. C'est une pratique qui nécessite toutes les précautions qu'elle implique dans un cadre consenti, sécurisé et bien évidemment encadré. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, Noé alias Oka dans le milieu fétiche. Je pratique le fétichisme depuis 5 ans et du coup je suis rigueur. Je pratique le shibari en tant que personne qui attache. Et notamment, j'ai plusieurs kinks comme le knife play.
Ça tombe bien, c'est l'objet de ce podcast. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le knife play ?
Alors, le knife play, du coup, pour les personnes qui seraient moins bilingues, ça serait le jeu avec le couteau, en gros. Et pour une définition générale, ça serait jouer avec la peur qu'on peut infliger à l'autre via le couteau, que ce soit... C'est principalement psychologique, en fait, comme jeu.
Donc c'est un jeu dans le cadre... c'est un jeu BDSM, c'est un jeu de soumission, de domination et de soumission, où la psychologie prend beaucoup de place. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ?
Alors, comment ça se passe ? Effectivement, c'est surtout dans un cadre BDSM, dans une relation domination-soumission. Et comment ça peut se passer ? Ça peut aller très bien à un certain taux de menace vis-à-vis du couteau via la personne qui est soumise, ou encore à des éraflures juste avec la pointe. J'évite en général de jouer avec des couteaux trop aiguisés, contre la peau directement, avec le côté tranchant, mais surtout la pointe, et de jouer sur des parties sensibles, que ce soit le torse, le ventre qui peut être très exposé, la gorge, et parties génitales et autres.
Ok. La place du consentement dans ce jeu, puisque là on parle quand même de jeu de couteau, donc il y a le risque d'un possible accident. Quelle est la place du consentement et quelles sont les règles de sécurité de ce jeu ?
Alors évidemment, on en parle avec son partenaire avant, on lui présente ce que ça peut être, on lui montre ce que ça peut être. Avant de voir quelqu'un ou d'en faire avec quelqu'un, j'en discute toujours préalable. Après, je le montre en dehors du jeu, bien évidemment en dehors d'une relation soumission-domination. Je le montre ce que ça peut être, quelle sensation ça peut avoir. Et ensuite, on peut l'intégrer au fur et à mesure dans le jeu, évidemment de façon progressive, que ce soit en jouant sans un bandeau pour cacher les yeux au début, pour montrer à la personne ce que ça peut être, que ça soit réellement visible, sans être attaché au début, parce que j'aime le pratiquer surtout quand la personne est attachée. Et ensuite, commencer à aller vers des trucs qui sont un peu plus sensationnels, entre guillemets, quand la personne est attachée, à la merci ou autre. Mais évidemment, toujours avant chaque session, vu que c'est quelque chose qui a un potentiel assez dangereux comme le breath play, le jeu de la respiration ou autre, c'est un jeu qui est un peu dangereux. Donc oui, il faut bien demander à chaque fois, il faut faire attention à chaque fois parce que c'est quelque chose qui demande un effort psychologique pour l'autre qui est énorme. Du coup, il faut s'assurer que la personne soit en forme mentalement avant une session.
Ok. Donc la personne, bien évidemment, si elle te contacte, c'est qu'elle connaît un minimum le knife play ou du moins qu'elle s'y intéresse. Vous discutez évidemment des limites de cette personne et aussi toi du jeu possible que tu peux avoir avec celle-ci. Donc le consentement est à la place, est au centre de tout. J'imagine qu'il y a un mot peut-être pour dire stop si besoin.
Oui, ça c'est au choix de la personne. On le définit avant. Il y en a beaucoup qui aiment qu'on se soit d'accord avec ça. J'aime bien m'instaurer énormément dans le jeu de rôle. Du coup, il faut que je connaisse bien la personne pour aller vers des trucs assez profonds. Donc, que je puisse voir si la personne brise son personnage et sort du truc. Du coup, notamment le safe word, donc le mot pour arrêter, qui soit totalement hors contexte. Il y en a, c'est ananas, il y en a, c'est rhododendron, ça peut être n'importe quoi. Faut bien avoir en tête que avant tout c'est la santé de la personne qui se fait soumettre qui peut être potentiellement en danger et il faut pas continuer pour faire plaisir au dominateur. Moi, autant des deux côtés, c'est difficile au début en tant que pour moi de me dire que d'arrêter une session ça peut être un sacrilège et ça peut gâcher le plaisir autant pour moi que pour l'autre. Mais il faut le faire pour le bien des deux, mine de rien, surtout pour ce genre de pratiques qui sont potentiellement dangereuses.
Quelles sont justement les limites de cette pratique ? On parle de danger. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, du pourquoi tu t'intéresses à ça, quel plaisir tu peux y trouver, etc., est-ce que tu peux me partager les limites de cette pratique et les dangers ?
Alors, les limites, moi, personnellement, je ne pratique pas sur le côté tranchant de la chose, ça appartient au blood play. En tout cas, moi, je le définis comme ça. Je ne joue pas avec le côté tranchant de la lame, je ne joue pas avec les potentielles coupures qu'on peut faire. C'est l'une de mes limites. Le sang fait partie de mes limites, même si j'ai un très gros côté sadomasochiste. Le sang fait partie de mes limites. Et blood play, je ne suis pas forcément adepte à ça et je connais peu de personnes qui font ça. Comme le knife play, finalement, il y a peu de personnes qui le pratiquent, mine de rien. On parle d'une dizaine de personnes qui le pratiquent en France, en tout cas que je connais. Le blood play, c'est principalement pouvoir jouer avec les coupures qu'on peut s'infliger et d'avoir une potentielle extasie vis-à-vis de la vue du sang, okay. En tout cas. Et donc, les dangers, justement, comme tu me disais, les dangers, ça peut être justement ces coupures qui peuvent être provoquées soit par un mauvais maniement du couteau, soit par un couteau trop aiguisé, soit parce que la personne, on ne connaît pas assez la personne et la personne peut faire peut avoir des sortes de spasmes, des spasmes musculaires qui peuvent un peu enfoncer la lame sur la peau. Donc ça, il faut faire très attention, il faut connaître la personne, notamment sur les zones qui sont très sensibles, comme le ventre, les aisselles, la gorge. Ça peut être dur à gérer pour les personnes qui peuvent avoir beaucoup de spasmes. C'est le potentiel, c'est le principal danger. Donc une personne restreinte sera généralement plus simple à contrôler vis-à-vis du knife play.
Ok, donc il y a effectivement les spasmes et qu'en est-il par exemple, tu joues avec la pointe du couteau, donc il n'y a pas de risque de grandes blessures comme on peut l'imaginer.
Non, c'est justement pour ça que je joue avec la pointe du couteau, c'est que je vais absolument éviter ça. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a des personnes qui le jouent autrement. Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne qui est en face, le soumis, la soumise, sait que c'est un couteau, potentiellement. Enfin, j'espère. et donc a cette, déjà cette peur psychologique, a déjà cette, cette sensation d'adrénaline qui commence à monter vis-à-vis justement du couteau, parce qu'on parle vraiment d'une peur primaire, comme on peut avoir du feu, de la chaleur et autres. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, je trouve que c'est très... Il y a un effet d'adrénaline qui rentre en compte, de jouer avec le danger. Et c'est ce qui me procure énormément de plaisir, que ce soit en tant que dominateur ou soumis d'ailleurs. Hein, je pratique autant dans les deux cas.
Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre de pratique, au juste ? Dans cette pratique en particulier, puisqu'on en parle.
Dans cette pratique en particulier, je viens chercher notamment justement ce danger et cet un peu extrémisme. Malheureusement, j'ai du mal à ressentir beaucoup de choses dans une session. Pour que ça soit vraiment quelque chose de nouveau, une sensation nouvelle, il m'en faut énormément. C'est notamment pour ça que certaines fois, j'ai un peu des pratiques qui sont un peu extrémistes sur les bords et que je joue justement avec cette part de danger, que ce soit en tant que sadique ou masochiste d'ailleurs, hein, les deux. Et c'est pour ça que notamment le knife play m'a intéressé, parce que c'est justement ça joue avec cet extrémisme et avec cette peur que je n'ai jamais pu avoir avec d'autres pratiques qui pourtant pour certains leur procurent beaucoup. Que ce soit le bondage tout simplement, que ce soit d'autres pratiques, celle-ci c'est l'une des seules pratiques qui me procure vraiment ce sentiment de peur, qui me bourre d'adrénaline et c'est le seul, en tout cas, qui me stimule énormément. Et c'est dû au fait que j'ai un tempérament assez fort. Et du coup, c'est compliqué pour moi d'avoir vraiment peur vis-à-vis de quelque chose, que ce soit d'un dom, d'une relation soumis-domi. Et du coup, il me faut plus généralement. Donc, c'est surtout pour les personnes qui sont en recherche de plus de
sensations.
De plus de sensations, exactement.
OK. Donc, la peur est un des moteurs qui te stimule dans l'intimité.
Notamment, oui, la peur, ça, faut que je sois en forme, franchement, physiquement et mentalement, pour pouvoir pratiquer ce genre de kink, tout comme le SM assez l'impact play, donc jouer avec les impacts, que ce soit claque, point ou martinet, paddle. Donc ça nécessite vraiment d'être en forme. Faut éviter de faire ça quand on ne le sent pas, parce que c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer non plus, c'est pas quelque chose qui est anodin, donc il ne faut pas essayer de l'amoindrir. Donc il faut faire vraiment attention, il faut se tenir au courant de la santé de la personne avec qui on va jouer avec ce genre de kink.
À quel moment tu t'es rendu compte de ce besoin, de ce désir de vouloir jouer avec les couteaux? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours par rapport au knife play?
Par rapport au knife play, c'est une personne qui m'y a introduite. Et cette personne, elle m'a montré ce que c'était, hein, comme je viens de l'expliquer, que ce soit au niveau des éraflures et autres, et qui m'a fait un peu essayer, qui m'a fait même beaucoup essayer, mine de rien, ce que c'était et que j'ai pu pratiquer au fur et à mesure après. Donc je sais les sensations que ça peut faire en tant que soumis. Du coup, j'ai un peu plus cette empathie, parce qu'il faut être extrêmement empathique quand on est d'homme, vis-à-vis de mes soumis. J'ai vraiment cette empathie pour essayer de faire en sorte qu'ils ressentent le plus possible et qu'on ne passe pas dans une zone où ça peut être traumatique, mais que ça soit uniquement du plaisir via cette peur. Et je m'en suis rendu compte que ça me stimulait, tout simplement parce que j'étais en recherche de plus de sensations et je ne trouvais pas ça dans la plupart des kings qui étaient présents à moi. Et aussi parce que je suis très expérimentaliste, j'aime beaucoup tenter des choses, j'aime beaucoup tester, j'aime beaucoup voir de nouveaux horizons, et ça c'est l'un des horizons que je continue à pratiquer et qui m'a le plus attiré.
Quelles sont les sensations que tu ressens au juste ?
Les sensations, comme je disais, du coup, c'est principalement cette sensation de peur, du coup, qui me fait une grosse adrénaline, comme je peux avoir dans une soumission qui soit très forte ou dans une domination qui soit très forte. Sachant que pour moi, les sensations en tant que dominateur et en tant que soumis sont assez différentes, mais qui me procurent tout autant de plaisir, un plaisir équivalent. Mais c'est surtout ce sentiment psychologique d'être à la merci de l'autre qui est très satisfaisant, que ce soit en tant que dominateur ou soumis. C'est surtout ça qui m'intéresse et qui me fait revenir à ça, comme d'autres pratiques d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a la douleur physique ?
Douleur physique, il peut en avoir selon la sensibilité des personnes, surtout au niveau des éraflures qu'on peut faire avec la pointe du couteau. Il peut y avoir une douleur physique avec laquelle on peut jouer, hein, comme on peut très bien jouer après une session de shibari, de corde, sur les différentes marques qui ont pu être mises. Et le couteau, c'est à peu près la même chose, les éraflures. Évidemment, pour un peu de prévention, si les entailles sont un peu plus profondes que ça, évidemment, il faut penser à nettoyer évidemment les potentielles plaies qu'il peut avoir si vous en avez fait, hein, ça peut arriver. Les désinfecter aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important au cas où il y a quelque chose qui allait un peu trop loin ou si c'est l'une de vos pratiques justement d'aller dans ce côté de jouer avec la lame, même si je déconseille pour les personnes qui ne sont pas très expérimentées.
Est-ce qu'il y a des traces, des cicatrices possibles ?
Cicatrices si on fait avec le côté tranchant, justement. C'est traces possibles si on fait avec le côté tranchant. Les éraflures qu'on peut faire avec la pointe, selon si elle est plus ou moins aiguisée. Évidemment, conseil, testez-le sur vous-même, que ce soit sur des parties qui sont sensibles ou moins sensibles, que ce soit les jambes, tout ce qui est mollet, qui peut être une peau qui soit un peu plus dure, ou même des parties qui sont un peu moins sensibles, que ce soit les poignets, la face la plus blanche du poignet, ou encore aisselle et autres. Donc testez sur soi-même avant pour voir ce que ça peut procurer. Est-ce que votre soumis ou la personne avec laquelle vous jouez peut ressentir vis-à-vis de ça? Comme ça, ça se passe le mieux possible, quoi, tout simplement. Vous pouvez savoir ce que la personne peut ressentir. Et donc, les cicatrices, ça peut apparaître uniquement par des éraflures qui peuvent être plus ou moins profondes. Du coup, surtout avec le côté tranchant du couteau. Mais avec la pointe, c'est assez rare si le couteau n'est pas très aiguisé.
Avec quel genre de couteau tu joues ? Est-ce que tu as une mallette remplie de couteaux ? Voilà, là c'est un peu kitsch, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les couteaux, la forme, les matières peut-être, de quelle manière ils sont aiguisés ? Je n'en sais rien.
En fait, j'ai la mallette de torture dans les James Bond. En fait, non, ça peut aller très bien du basique couteau qu'on peut avoir pour manger, hein, un couteau dentelé ou je ne sais quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Après, évidemment, il y a des couteaux qui rajoutent ce côté jeu de rôle, ce côté immersion, que ce soit des couteaux suisses ou des opinels qui peuvent être le plus... en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Qui peuvent être le plus attrayant, on va dire. En tout cas, moi, c'est là où je porte mon dévolu. Et après, sinon, tout type de couteau peut aller. Évidemment, j'ai tendance à éviter les couteaux qui n'ont pas une pointe qui remonte un peu, qui remonte un tout petit peu. Pas des couteaux qui soient très droits comme les couteaux de cuisine, parce que c'est là où la pointe est la plus ardue. Et dans ce cas-là, on a plus de chances de jouer avec le côté tranchant plutôt qu'avec que la pointe. C'est pour ça que j'aime bien les opinels généralement, parce qu'ils ont une petite pointe qui remonte. C'est tout de même plus pratique, ça évite le risque de blessure.
Est-ce qu'on peut parler d'un fétichisme pour les couteaux ? Ou alors c'est réellement la peur, l'adrénaline que te procure le jeu en soi qui t'intéresse ?
Alors, j'aime pas forcément les couteaux en particulier, même si j'aime bien les beaux objets, hein. Les couteaux peuvent en être très bien de beaux objets. J'ai pas forcément un fétichisme par rapport aux couteaux, mais plus par rapport à ce que ça peut procurer, effectivement.
Mais si tu sais qu'évidemment tu es dans un cadre sécurisé avec toutes les limites qu'elles imposent, et finalement c'est vraiment le fantasme que tu t'en fais qui te crée du plaisir et qui stimule ton adrénaline et la peur. Puisque tu sais très bien que tu vas normalement, parce que tu as en tant que demi ou soumis ces limites, tu ne vas pas trancher ou tu ne vas pas être tranché.
Voilà, c'est ce qui peut être un peu compliqué des fois, c'est de jouer entre cette limite de fantasme et de réalité. Il y a surtout la personne qui est soumise. Généralement, pour les personnes avec qui je sais que je peux ne pas trop leur en dire, tout en demandant évidemment le consentement avant d'en parler un peu, sans même expliquer comment ça va se passer, il y a cet effet de surprise qui peut rajouter à l'adrénaline. Ça, évidemment, il faut essayer de bien avoir un consentement explicite de la personne. Vous n'êtes pas forcément obligé d'expliquer comment ça va se passer. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez lui montrer à la limite ce que ça peut faire si la personne est toujours OK pour le pratiquer. Mais avec les personnes que je connais un peu plus, que ce soit dans d'autres jeux, ou des personnes que je connais très bien, que ce soit en tant qu'amis ou autre, ou en tout cas, ou surtout mes modèles de Shibari, parce que c'est les personnes avec lesquelles je pratique le plus.
Petite précision, j'ai déjà fait un podcast sur le Shibari tout au début de la chaîne, et il y en a un qui arrive très bientôt s'il n'est pas déjà sorti, avec Stéphanie Do. Donc si vous ne connaissez pas ce terme, je vous invite à aller les écouter.
Petite auto-promo. Shibari ou aussi Kimbaku pour les autres termes. Et du coup, je pratique surtout dans Shibari. Et c'est cette dissociation réelle et fantasme qui est un peu dure à avoir, et l'équilibre à trouver entre les deux qui est dure à avoir par rapport au fantasme qu'on peut s'en faire et la réalité qu'il va avoir. Parce qu'effectivement, on ne va pas se faire couper, on n'a pas ça en tête. Mais il faut avoir un peu ça en tête, dans le sens pour être vraiment dans l'immersion du truc. Du coup, c'est un peu grâce au dominateur, mais grâce au soumis. Parce que le soumis, il faut qu'il joue le jeu, évidemment, et qu'il se sente en proie si c'est quelque chose qui lui plaît.
Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce sujet ?
À part ce que j'ai pu dire, de le pratiquer de façon très sûre, dans un bon cadre, d'essayer de rassurer la personne. À part ça, moi, c'est comme ça que je le pratique, comme je l'ai expliqué, mais il peut y avoir plein d'autres manières de le pratiquer, évidemment. Donc, à vous de tester au fur et à mesure que vous expérimentez, et surtout de tester sur vous au début. Même si les sensations sont moindres, c'est très important pour s'assurer de la sécurité de l'autre.
Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @sinedensublimepodcast. Ou bien, si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à mes ateliers sexo, je vous invite à vous rendre sur mon site internet sinedensublime.com. Si évidemment vous appréciez ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur sinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.